Lundi le 14 novembre 2022, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jase. Bon début de semaine, mesdames, messieurs, Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous accompagnent pour la prochaine heure avec nos panélistes invités aujourd'hui, Guy Boucher et Marc-André Dumont. On va revenir sur cette belle victoire du Canadien samedi soir en face aux Pingouins de Pittsburgh au Centre Bell. Plusieurs commentaires également, écho de vestiaire en provenance de Brossard au niveau des joueurs. Martin Saint-Louis va s'adresser aux médias un petit peu plus tard également. Bref, beaucoup, beaucoup de choses au menu aujourd'hui. Monsieur Lemay, mes hommages.
Salutations, mon Yannick. Gros week-end de sport. Le Rouge et Or qui l'a emporté dans la finale du Québec au football universitaire, les Alouettes qui l'ont échappé malheureusement, Marie-Ève Dicker également qui malheureusement s'est inclinée en Angleterre, le Grand Prix, on a vu le crotté à Verstappen qui n'a pas voulu laisser passer Perez alors que Perez a tout le temps pogné pour le laisser passer, le Canadien qui, écoute, après les matchs de samedi, j'ai pas regardé ce matin, mais après les matchs de samedi, donc dimanche matin, le Canadien était dans une place pour les séries éliminatoires comme meilleur wildcard. Donc, ça aussi, c'était quand même spécial. Bref, tout ça pour dire qu'on a une grosse émission pour vous aujourd'hui. Et salutations du champ gauche, mon Yannick. Moi, je suis une vieille personne et je fais partie de ceux qui ne vont jamais au guichet automatique. J'aime ça aller voir les gens au comptoir. Donc, tous les gens qui travaillent dans les institutions financières, qui prennent encore mon petit dépôt ou qui m'aident à payer mes factures, je vous salue.
Es-tu sérieux?
Salutations. Merci de... Oui, je n'ai jamais été au guichet automatique. Les seules fois que j'y vais,
c'est... Tu pas en ligne, mettons, genre? Avec ton téléphone, tes factures?
En ligne, j'en fais un peu. Mais ça m'insécurise d'avoir un chèque sur mon bureau. Tu sais, quand tu vas le porter à la banque, il est parti. Il est dans ton compte, c'est fini. Là, quand je le dépose
avec ton téléphone, c'est pas compliqué.
Oui, mais je ne sais pas s'il est déposé. Fait que là, je le garde, j'ai marqué dessus qu'il était déposé. Puis là, quand je l'ai, je fais « Ah, je vais aller voir s'il est dans les comptes. » Il y a 3-4 opérations de trop, je suis insécure. Fait que j'aime ça aller voir la madame à la caisse ou le monsieur.
C'est correct. Il y en a de moins en moins, mais au moins, il y en a qui sont encore là pour... Tu dois être pas mal dans les seuls dans ton groupe d'âge là, qui fait ça. C'est pas mal les personnes un peu plus âgées qui sont moins habituées avec la technologie, puis c'est correct, là. Mais OK, ben c'est correct, c'est bien correct. Salutations à tous les gens qui travaillent donc dans les caisses et les banques et les institutions financières. C'est une belle salutation. Martin, ben toi, tu me parles de la vieille façon de faire. Moi, je te parle de la nouvelle technologie. C'est comme le monde à l'envers, là. C'est pas moi qui est Monsieur Techno. Mais tu veux, je vais te ramener à ce qui est plus actuel au niveau de la technologie. Une coupe de jeux vidéo, y a un beau concours, une belle compétition. Même, il y en a deux d'organiser là, par le RDS.ca.
Oui, il y en a deux. Il y en a une de soccer, puis il y en a une de hockey. Tu sais que le hockey, c'est un 6 contre 6. On l'avait fait, ça avait été fait l'an passé. C'est diffusé, entre autres, sur Twitch. Et c'est 6 contre 6, il y a des prix. Tandis que le soccer, ça va être 1 contre 1. Donc, on vous invite, bien sûr, à vous inscrire. Je suis après chercher les informations. Je sais qu'on va en parler. Si tu veux, je vais en parler entre Guy et Marc-André parce qu'on en a fait la mention dans le début de show là, quand tu n'étais pas là. Donc là, on va faire une mention milieu de show si ça ne te dérange pas.
Ben, c'est bien correct. On y reviendra entre les deux, mon cher ami. C'est parfait. On aura les échos de vestiaire dans les prochaines minutes. Là, les joueurs qui sont en ce moment en train de rencontrer les médias. Donc, on aura l'occasion, là, durant notre intervention avec Guy, de vous présenter les commentaires de quelques joueurs du Canadien et Martin Saint-Louis, plus vers 12h30. De ce pas, allons retrouver le coach Guy Boucher, qui est bien installé pour nous jaser de cette belle victoire du Canadien. Salut, Guy!
Salut, messieurs. Comment allez-vous?
Numéro un.
Très bien.
Du positif à jaser, mon Guy. On va commencer tout de suite. J'adore dire le nom de Kirby Doc. Puis j'ai un petit peu pété une coche, que ce soit en ondes ici ou un peu à la radio, sur tous ceux qui ont chialé sur Kirby Doc qui ne produisait pas sur une deuxième ligne. Le Monahan qui allait bien avec les portes tournantes à côté de lui, ça a été pas mal moins ça. Puis on demandait ça à un gars de 21 ans. Je pense que je l'avais fait avec toi en plus, cet envolé pulmonaire-là sur Kirby Doc.
Oui.
Là, c'est fait avoir dans la transaction. Puis là, après ça, il a commencé à jouer à l'aile avec Suzuki puis Caulfield. Puis là, tout le monde voulait être castré comme étant un ailier. Il joue. Moi, il y a des choses de sa game qui amenait dans la game que j'aimais. Récupération de rondelles, long bâton, abandonne jamais, n'a pas peur du contact, etc. Mais là, samedi, là, on a encore vu là, un autre niveau à son jeu.
Oui, ce qui arrive, c'est que c'est pas le genre de gars dynamique, capte ton œil dès le départ, puis tu sais, là, c'est pas quelqu'un là, qui est très intense. T'sais, physiquement, il n'est pas nécessairement engagé lui-même à aller chercher le contact physique et tout ça. Fait que c'est pour ça que, en plus, qu'il ne faisait pas de points, bombe au centre et tout ça. C'est sûr que c'est pas le genre d'individu qui tu vas aimer dès le départ. C'est sûr que je peux comprendre aussi comment les partisans, certaines personnes des médias avaient peut-être discuté avec Kirby Doc, mais un, j'adore le fait qu'on l'a mis à l'aile. Ça fait mille fois que je me prononce là-dessus depuis des années que ça enlève la pression à un centre de le mettre à l'aile. Deux, non seulement on voit qu'il y a du talent, non seulement on voit qu'il y a une bonne vision et tout ça, je pense que là, on a vu qu'il y a une progression, on a enlevé de la pression aux jeunes, puis on l'a mis dans une situation où il y avait moins de pression, parce qu'il n'était pas au centre, moins de responsabilité, puis là, il y a une chimie qui s'est installée avec lui, puis évidemment, qu'on va faire des Suzuki, c'est super. Mais moi, ce que j'ai aimé au dernier match, et puis c'est toujours la progression, c'est qu'il est responsable de 4 buts du Canadien, des 5 buts, et il y a juste 2 passes. Eh bien, juste, c'est quand même 2 passes. Mais le but de Caulfield, tu regardes, il est rentré dans zone, à place de s'en débarrasser ou d'essayer de faire un jeu osé alors qu'il n'y a pas de jeu, il est rentré avec la rondelle, il a pris la mise en échec, le jeu continue de progresser en zone offensive, c'est ce qui a donné, après ça, un jeu vers le haut. Et pendant ce temps-là, à place de rester en périmètre, il est revenu devant le filet, complètement devant le gardien de but. C'est pour ça que le but de Caulfield, qui avait l'air d'un lancer anodin, est rentré parce qu'il a payé le prix pour se rendre là. Alors ça, ces petits détails-là, s'ils continuent d'ajouter ça, sa panoplie d'attributs qu'il a, surtout avec ces deux jeunes-là, avec Suzuki et Caulfield, qu'ils ont absolument besoin de quelqu'un qui aille chercher des rondelles, leur fasse une certaine place, va aller faire le travail sale comme ça. Ben écoute, il peut faire une carrière avec ça. Fait qu'on va oublier qu'il va jouer au centre. On peut le remettre au centre plus tard, aucun problème. Puis il peut alterner gaucher, droitier, tout ça, avec d'autres individus sur une ligne. C'est clair. Mais ça c'était signé Kirby Doc, ce but-là, même si c'est Caulfield qui l'a marqué. Puis l'autre, le but en avantage numérique, ben on a parlé souvent que l'avantage numérique, maintenant, va mieux parce qu'on joue à l'intérieur. Moi, ce que j'ai aimé sur le but, c'est qu'il n'y a pas d'assistance parce qu'il y a la troisième assistance. En réalité, quand tu regardes, il prend la rondelle, il descend tout le monde en bas de zone. Alors, on a tous les autres joueurs dans le bas à l'intérieur. Il réussit à remettre la rondelle à Drouin en haut, qui prend un lancer. Puis évidemment, Monahan et le bumper qui sont à l'intérieur et le backdoor sont là. Mais c'est quand même lui à l'origine qui a fait la passe, donc la troisième passe, pour attirer tout le monde dans le bas, remettre ça en haut. Alors, évidemment, il y a le but en avantage numérique, il y a une assistance, puis il y a le but incroyable, le calme incroyable qui a démontré que le but à Suzuki, qui est encore le tic-tac-toe. Ben, en tout cas, j'en dis beaucoup, mais c'est parce que c'était pas juste d'avoir des points, parce qu'il y avait bien plus fait que juste avoir 2 passes. Là, pour moi, là, il y a 3-4 coches qui a avancé dans d'autres choses, d'autres détails, qui font en sorte qu'on peut encore envisager qu'il va prendre un autre step. Il n'est pas juste un joueur avec la vision plus du talent. Ça veut dire qu'il y a un désir d'aller chercher ces détails-là. Ça peut être extrêmement encourageant.
Écoute, je voulais ajouter quelque chose. Yann, merci de me donner la chance. Le but de Caulfield, c'est pas juste parfait parce qu'il vient prendre position. Ça aurait été facile pour lui d'essayer de se venger, d'essayer de fait culbuter par le défenseur des Penguins. Je pense que c'était Peterson qui l'a renversé, qui perd de sa tête. Mais d'aller s'insérer sans même jamais toucher au bleu du gardien de but, forcer le défenseur à engager la bataille avec lui. Il a complètement enlevé les yeux à Jarry là-dessus. Puis c'est la meilleure façon de se venger. Ce jeu-là, pour moi, là, ça monte tellement. Puis je vais redire, là, je l'ai dit, là, André Tourigny, qui l'a adoré à Hockey Canada, il dit, ce gars-là, tout le monde le regarde puis il pense qu'il n'est pas intéressé, mais ce gars-là faut y dire, décroche, arrête d'y penser, arrête, lâche prise.
Parce son que langage
il est obsédé par vouloir bien faire. Il est obsédé par vouloir bien faire. Puis il fait tellement de bonnes petites choses. En tout cas, ce jeu-là, pour moi, Guy, là, ça parle à quel point c'est pas égoïste comment il a joué sur ce jeu-là, puis comment il a fait ce qui était important pour l'équipe. Puis moi, regarde, je n'ai que du bon à dire, puis ça me permet de dire le nom Kirby Tkach encore plus
souvent. Hey, puis les gars, la beauté de l'affaire, Guy, avant que tu embarques, là, la beauté de l'affaire, c'est qu'il a 21 ans. Incroyable, là.
Oui, mais en plus, pour moi, c'est plus gros que Kirby Tkach. C'est le fait que tu ne restes pas pris avec des perspectives rigides. C'est un centre, il va rester au centre. On voulait comme deuxième centre. On ne le mettra pas à l'aile. Ça ne marchera pas avec Caulfield puis Suzuki parce que ça va être trop jeune. Ou ça ne marchera pas parce que c'est pas un gars qui va aller chercher des rondelles comme moi j'aurais privilégié. Il va en chercher, mais à sa façon. Tu sais, c'est un autre exemple qu'il faut que tu essayes des choses parce que très souvent dans le coaching, c'est pas ce que tu t'attendais. C'est pour ça que les maudits tableaux, les premières lignes versus la 3 versus la 4, les salaires, puis toutes ces affaires-là, ça, c'est des limitants. Comme entraîneur, il faut que tu t'éloignes de ça. C'est des limitants, tu es limité, tu es esclave de ces paramètres-là ou tu es esclave de comment c'était avant, puis comment c'était joué avant, puis gaucher, puis droitier. Puis c'est... Ça, là, j'adore qu'est-ce qui se passe en ce moment. C'est pas juste Kirby Tkach, c'est plus gros que ça pour moi. Alors, certain que je tout pour ça.
OK, des salutations. Justement, on va aller l'entendre. Kirby Tkach s'est adressé aux médias en quelques instants, mais juste avant, salutations sur Facebook à Guillaume Lemieux, Jean-Guy Lambert, Manon Denis, une régulière, Martin Giraud, Pierre-Luc Jacques, sur YouTube, Marc Cormier, Richard Guimont, une habituée, Léona Boudreau, Réjean Cajolet. Des commentaires, Amélie Lee sur YouTube qui dit avec Slavkovski qui revient, qui quittera l'alignement, est-ce qu'on garde la formule gagnante? Michel Vaudry, elle, dit avec ce que Hoffman nous offre présentement, on est porté à dire ah, ben c'est pour ça qu'ils sont allés le chercher, Hoffman. Bref, des petits commentaires comme ça. Martin en fera sur le RDS.ca également. Mais avant, Guy, de poursuivre, allons, parce que je sais que tu veux nous parler de Suzuki un peu, mais allons écouter les commentaires recueillis il y a quelques minutes à peine dans le vestiaire du Canadien après la séance d'entraînement matinale.
Basically, you can see on the clip, like I was watching more puck before, and yeah, then he like turned to my way, and yeah, then happened what happened, but yeah, I reached out to him and yeah, tried to do everything. It sucks, like what happened, like with him and injuries and stuff. I had a little time to recover and work on some things, and it's always, oh, it's not good. You want to play every game, but sometimes you have not, like, you don't have any other option. So yeah, you just have to like take advantage of it, that free time you have, and just work on those little things off the ice. Well, on the ice as well.
I think we all just enjoy coming to the rink and hanging out together. And obviously hockey's been a lot of fun, and I think it helps definitely when you're winning, but I think that the culture they have here and the young group we have mixed kind of with the veteran leadership, it just really works well together. And I think we all get along, and that's a big thing. I think that's why teams have such great success in this league, is that they're so close on and off the ice, so it definitely helps the good feelings we have in here.
There's a lot of things to look at and be happy about, and then obviously, I mean, the big one for me is, I guess in a negative way, is just not a lot of offense coming on. But I've been through these slumps before, and for me, they'll just points and goals will come in waves. I'm just trying to show my value and keep working on face-offs, keep working on penalty kills, and then the offense will come through that stuff.
Un petit résumé, Yann, de ce qui s'est dit dans le cas de Slavkovski. Oui. Je regardais plus la rondelle que le joueur quand que je l'ai frappé. C'est malheureux. Je l'ai quand même rejoint. Il a apprécié, il a accepté ses excuses. Ça, c'est parce que j'ai écouté l'entrevue avant qu'on vous joue des extraits. Il dit que c'est sûr qu'il aimerait se jouer tous les matchs, mais ce qui est fait est fait. Puis il dit on essaie de faire le maximum quand on ne joue pas. Dans le cas de Kirby Doc, il a dit qu'il tout le monde s'entend bien. C'est une partie de la recette pour avoir du succès. Il dit ici, on a mis l'accent avec les jeunes joueurs, donc tout le monde s'entend bien. Puis dans le cas de Jake Evans, il a dit c'est plate, je vais commencer en parlant de négatif. C'est sûr que je trouve que j'ai pas assez d'attaque. Ma carrière, j'amène toujours ça par vague. Fait que je continue à travailler sur mes forces, entre autres d'être efficace en désavantage numérique. Je sais pas, les gars, si vous voulez rajouter quelque chose dans le département de la traduction, Guy.
Non,
t'as bien fait ça,
on peut rien dire.
Fait que, ouais, Kirby Doc n'a pas dit grand chose, c'est pour ça que tu résumes ça à, c'est sûr, là, c'est une gang de jeunes de leur âge, mais honnêtement, là, ils sont faits à l'exception d'un ou deux joueurs, puis je présume, Guy, tu vas me dire, c'est toujours comme ça, puis on va revenir à Suzuki, là. Mais c'est vrai que ça a l'air d'un bon groupe de jeunes joueurs. Tu sais, ce matin, il y avait un jeune fan handicapé qui était dans le vestiaire, puis les gars ont pris des photos avec, mais j'ai vu des photos de Cole Caulfield qui est complètement agenouillé devant les kids. Ça a l'air d'une bonne gang de kids avec des Savard, Edmondson. Je trouve qu'il y a des bons vétérans autour de ces... autour de ces... Jake Allen, on l'oublie souvent, que le gardien de but comme ça, ça a un rôle de vétéran. Tu sais, l'an passé, là, je présume que ça vient avec les victoires et les défaites, Guy, tout avait l'air négatif. Tandis que là...
Ouais, mais c'est sûr, moi, je vais dire, regarde, écoute, j'ai rarement vu, autant dans les nationales qu'ailleurs, j'ai rarement vu des environnements où il n'y avait vraiment pas des bonnes personnes, par quelques exceptions. C'est presque tous des environnements avec des personnes, puis chaque équipe a un ou deux, trois, des fois, individus spéciales. Il y en a peut-être une fois de temps en temps où c'est OK, ouais, pas une super personne, mais tu sais, c'est pas nécessairement exécrable. C'est toujours dépendant des victoires et des défaites. C'est pour ça que je le disais depuis le début, le développement passe aussi par la victoire. C'est-à-dire, si tu n'as pas la victoire au moins une fois de temps en temps ou à un certain niveau, tu ne peux pas avoir une bonne ambiance. C'est inévitable que ton ambiance va dépérir. Puis, même avec des bons individus, les bons individus vont devenir chialeux. Puis après ça, les chialeux vont déteindre sur les jeunes. Les jeunes vont se sentir qu'ils ne vont pas bien agir parce qu'ils ne se sentiront pas soit qu'ils sont bienvenus ou qu'ils sont mal épaulés, puis ainsi de suite. Puis des fois, c'est les jeunes qui ne sont pas des bons individus. Tu sais, on parle tout le temps avec les jeunes. Ah, OK, c'est une bonne atmosphère. Moi, j'en ai vu des jeunes là, qui ne sont pas bons pas en tout pour la chance. Fait que, tu sais, tout ça, dans la victoire, te crée un environnement sain. Mais les mêmes joueurs, dans quelques mois, dans un an, dans deux ans, les mêmes personnes qui ont dit que c'est des bonnes personnes, qu'ils sont bons pour l'ambiance, puis tout ça, ben, vont être ceux qui vont te créer une mauvaise ambiance dans ton vestiaire. Parce que là, ils perdent, ou parce que là, quelqu'un a pris leur place, ou le coach fait quelque chose que les autres n'aiment pas, ils ont perdu leur rôle, ils ont moins de temps de glace, tu sais. Pour ça, moi, je suis plate là-dessus, je m'emballe pas, puis je me mets pas à terre non plus quand ça va mal. Fait que quand ça va super mal...
Mais au moins, pour l'instant, c'est ça.
C'est jamais aussi pire qu'on pense, puis quand ça va super bien, c'est jamais aussi pire qu'on pense. Fait que c'est de rester quelque part là. Oui.
Ça peut partir un peu aussi avec la capitaine. T'sais, on se rappelle, lorsqu'on a nommé Nick Suzuki au début de la saison comme capitaine, tu sais, il est jeune, on se disait, c'est un candidat logique, il est jeune. Mais lui, il fait la job sur la glace, puis il semble faire la job dans le vestiaire, puis c'est une gang de jeunes. Bon, on dirait que tout est parfait dans le cas de Nick Suzuki. Tu sais, honnêtement, quand tu regardes ça, puis moi, le premier, là, tu sais, au début de l'année, je ne m'attendais pas à ça du tout du Canadien. Tu sais, il n'y en avait pas d'attente. Puis là, tout le monde m'accroche, tout le monde, « Hey, sont-tu le fun d'avoir joué la gang de jeunes? Je trippe, j'adore ça. » Puis tu sais, l'engouement est revenu avec le Canadien parce que cette gang de jeunes-là, menée par un Nick Suzuki qui fait un travail remarquable, ben c'est ça que ça donne. Ça se reflète partout, non? Tu sais, ça part avec ton capitaine aussi, là.
Oui, oui, mais je veux dire, c'est jamais le résultat d'un seul individu, premièrement. Deuxièmement, on savait déjà que c'était une bonne personne. On savait déjà que c'était un jeune qui a un avenir où il démontre de la fiabilité, puis ainsi de suite. Tout ça fait que, tu sais, on a choisi une bonne personne. De savoir combien de temps que ça prend avant de devenir, que ça va prendre des années encore avant qu'il devienne le meilleur Suzuki possible, autant sur la glace que hors glace, que dans le vestiaire. Tout ça, c'est un cheminement qui s'arrête jamais, ça, ton leadership, ton impact et tout ça. Fait que, tu sais, il est juste au début de ce qu'il va devenir éventuellement. Puis, mais c'est clair que c'est positif. C'est les raisons pour lesquelles on lui a donné le capitaine. Il y a aussi le fait qu'on a, il n'y avait pas vraiment personne d'autre qui représentait ça. Fait que, tu sais, il bénéficie aussi des circonstances, puis tant mieux pour lui, et il le mérite en même temps. Fait que, tu sais, il y a les deux qui viennent en ligne de compte ici, puis c'est bien. Mais, tu sais, tout ça en ce moment me fait penser, tu sais, c'est positif, mais une des raisons aussi principales, tu l'as dit, il n'y avait pas d'attente. On est content de n'importe quoi maintenant. La minute qu'il y a un petit positif, on est content. La minute, t'as pas d'attente. Puis c'est un des problèmes, justement. La confiance est 80-85% dépendante des attentes. Autant les attentes que tu as envers toi-même que les autres ont envers toi. Si tu regardes à Ottawa, il se passe complètement l'inverse. Pourtant, hein, ça fait 4 ans qu'on dit que c'est un super groupe de jeunes. Puis waouh, c'est le fun de voir ça. Puis c'est positif. Exactement ce qui est en train d'arriver avec le Canadien. Fait que, tu sais, c'est pour ça que c'est un long processus de se rendre à bon terme. À bon port, puis c'est un long processus de pouvoir atteindre une chimie, puis tu sais, on vu là 2 semaines, là, on était en train de dire qu'il fallait se débarrasser de tous les vétérans. Tu sais, qu'ils faisaient pas le job. Là, on a mis Hoffman des estrades, puis Dadonna va pas jouer, puis l'autre, puis ci, puis ça. Puis c'était la fin du monde il y a 2 semaines. C'est juste pour montrer comment la Ligue nationale, c'est très éphémère, puis on
ça
passe...
change vite.
Ben oui, on passe des chires émotionnels positifs, puis après ça, une semaine après, on est écrasé émotivement. Fait que, tu sais, je pense que c'est très positif, mais il faut le mettre en perspective. Que c'est une équipe pas d'attente, c'est une équipe qui n'a pas de pression, puis c'est parfait pour les jeunes et tout ça. Mais il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, quand la pression va arriver, comme on le voit à Ottawa, comme ça a été à Edmonton, comme ça a été avec Buffalo, alors qu'on avait plein de jeunes en devenir qui avaient eu des super bonnes premières saisons, deuxième saison, bien là, tu rentres dans une autre partie de du développement puis du processus vers une équipe gagnante, là. Là, tu rentres dans la pression. Tu sais, comme l'année prochaine, mettons, tu vas avoir tous ces jeunes-là. Là, tu vas dire, waouh, là, on va passer à une autre étape. Mais c'est souvent l'erreur. C'est parce qu'on pense qu'on va passer à une autre étape dès l'année prochaine, alors que tu vas avoir des recrues, ça va être leur deuxième année. Puis, on le sait très bien, des sophomores. Donc, des deuxièmes années, c'est le sophomore jinx qu'on appelle. Le jinx de la deuxième année, l'accablement de la deuxième année, c'est toujours par rapport aux attentes. Parce qu'on pense que parce que quelqu'un est rendu là, après, il va prendre 3-4 jumps. Non, il va être proche de la même affaire, il va s'améliorer un petit peu, puis on va être déçu parce qu'il va s'améliorer juste un petit peu. Ben oui, mais c'est normal.
Oh oui, mais tu sais, il y a des gars qui vont avoir quitté, puis peut-être ça aurait fait mal aux Canadiens. Je pense entre autres à Dadonov. C'est une blague. juste parce que Mathieu Bédard est excellent, je vais vous montrer son travail. Pendant qu'on parlait de Kirby Doc, il a décidé de m'envoyer des photos de la séquence. Donc, Kirby Doc qui se fait renverser. Kirby Doc va prendre sa place devant le filet. Le gardien, on voit qu'il ne voit rien partout. Et Kirby Doc qui renverse l'adversaire après le but de la victoire. Quelle belle satisfaction. Et photo. Attendez une seconde.
Photo blanche.
Non, attendez une seconde. Attendez une seconde, là, ça sort
bien. C'est la photo de ta nuit, ça. C'est la photo de ta nuit.
Vous êtes bien patient. Gracieuseté d'Arpin Bazou de Athletics. C'est la photo de Cole Caulfield. Je vous parlais dans le vestiaire avec Étienne. Un jeune partisan. Donc, quand on dit que les choses... tu sais, il y avait des vétérans, tout ça, là, mais c'est le fun de voir ces choses-là. On poursuit avec nos sujets du côté du web. Venez nous rejoindre. Hey, photo blanche. Gang de... Bon. Mais non, Suzuki est excellent. Tout le monde fait bien les choses du côté du Canadien de Montréal en ce moment. Puis, c'est le fun à regarder, comme Yannick l'a dit. Tout le monde a retrouvé le plaisir à regarder le Canadien. Un gars qu'on parle un peu moins, qui prend un peu moins de minutes de jeu depuis que Edmondson est revenu, mais qui a son efficacité. Tu veux parler de Caden Gooley, qui, je pense même qu'en 2 matchs contre le Sidney Crosby cette année, aucun point.
Ben, exactement. Tu sais, on était sûr de Gooley dès le départ, par ses performances, par son attitude. Information qu'on avait. S'il y avait quelqu'un sur qui on aurait gagé pour rester avec le Canadien et qui performerait relativement bien, ça aurait été Gooley. C'est le cas. Évidemment, parce qu'on est surpris de Chekhov, parce qu'on est surpris de Harris, parce que Tomas Slavkovský, c'est le premier pick overall, tout ça. On dirait que tranquillement, on en parle un peu moins, mais quand tu regardes la constance de ce jeune-là, l'efficacité, écoute, c'est époustouflant, moi, comment. ce jeune-là n'a pas bronché depuis le début. Et on a eu la preuve encore. Ça fait deux fois qu'il y a Crosby en face. Les deux matchs, Crosby n'a rien. Tu sais, quand je dis rien, là, zéro but, zéro pas, il y a un lancé, il y a un lancé bloqué, il n'y a rien. Puis ça, je veux dire, le faire une fois, OK, c'est correct, là, mais là, le faire deux matchs, c'est phénoménal. Je veux dire, c'est une recrue, là. T'sais, on parle d'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue nationale. Écoute, pour moi, c'est le même genre, c'est un McDonough. Tu sais, McDonough, là, je veux dire, tout le monde qui l'a eu, c'est lui parce que c'est pas quelqu'un qui va faire des vagues, va t'impressionner parce que c'est du flash, tout ça, mais la constance de toujours faire les bonnes affaires, c'est vraiment pas donné à grand monde. Puis alors, Gouli a ça. Fait, moi, je pense qu'il ne faut pas oublier de l'apprécier. Il ne faut pas oublier que lui aussi, c'est une recrue, puis c'est pas parce que c'est une recrue qui va bien qu'il n'est pas non plus autant en progression que les autres qui nous surprennent. Moi, il me surprend constamment, même s'il est constant. Là, ça, c'est clair, c'est un bijou, ce gars-là.
Oui, puis il est le fun d'avoir allé, puis je pense qu'on va l'apprécier pendant de nombreuses années à Montréal. Guy, on va quitter Montréal, parler d'Ottawa un peu. Tu en as parlé, mais on ne parlera pas de l'équipe actuellement, mais tu voulais en parler, puis je vois le temps qui file. T'as quelqu'un que tu as bien connu, que tu as côtoyé dans l'organisation des Sénateurs, là, qui va être intronisé ce soir au Temple de la renommée du hockey, et tu veux nous en parler, c'est Daniel Alfredson.
Ben, écoute, je trouve ça extraordinaire que ça ne parle pas nécessairement quelqu'un qui a gagné la Coupe Stanley pour être dans le Temple de la renommée, évidemment. Il y a tellement de grands athlètes, de grandes personnes qui n'ont pas gagné la Coupe Stanley. T'sais, c'est comme si la Coupe Stanley, c'était la seule chose qui comptait. Je connais aussi bien quelques crétins qui ont gagné la Coupe Stanley aussi, là, des gens que je n'engagerais jamais. Là, fait...
T'as-tu dit crétin?
Oui, j'en ai.
T'as dit crétin?
Oui, je l'ai dit.
Ouais.
Mais c'est ça, c'est que... Écoute, Alfredson, c'est une personne exceptionnelle. J'ai eu la chance de le côtoyer parce qu'il était dans l'organisation... à Ottawa. Dès le départ, évidemment, j'ai eu tellement de discussions avec lui. Puis, c'est une personne très calme, très posée, mais qui dégage beaucoup. Là, un petit peu l'image de Steve Yzerman. C'est des individus qui n'ont pas besoin de parler. Ils ont juste besoin d'être là. Et tu les vois, tu les sens, tu les ressens. Ils ont une prestance, pas juste par ce qu'ils ont fait, mais de leur personnalité. Puis, tu sais, j'avais toutes sortes d'histoires de lui. Évidemment, je ne l'ai pas coaché, mais de lui, quand il jouait, parce qu'il restait encore des joueurs qui avaient été en relation avec lui, qui l'avaient eu, tu sais, des Chris Kelly, puis des Chris Neal et tout ça. Et puis, ce qui revenait toujours, c'était que c'était un individu tellement fort, qui avait l'air tellement confiant dans ton vestiaire, que tu avais toujours l'impression que tu pouvais gagner le match parce qu'il était là. Puis des fois, quand tout le monde s'énervait, lui est extrêmement calme, mais par des paroles soudaines, à un moment donné, avec beaucoup de pas nécessairement du tact, mais de choisir les bons moments, comme Steve Yzerman, comme Bob Gainey d'ailleurs, c'était des individus qui disaient les bonnes choses au bon moment, ce qui est vraiment pas donné à grand monde, mais avec la prestance, puis tout le background, l'intelligence, l'expérience, la prestance pour vraiment avoir un impact. Parce qu'il y a bien du monde qui parle dans une chambre. Pas parce que tu parles dans une chambre que tu es un leader ou que tu es un bon leader ou que tu as de l'impact. Ces individus-là, ils ont vraiment, vraiment de l'impact de par qui ils sont. Ça commence par qui ils sont avant, qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis ça, définitivement, que cette personne-là a ça. Puis moi, avec le changement de propriétaire, je suis convaincu que son rôle va être accru. Il va devenir vraiment un rouage impliqué, important dans les décisions, là, je pense, prochainement là, pour les Sénateurs d'Ottawa. Puis tant mieux. Tant mieux. Puis tu sais, ça m'a fait penser, moi, personnellement, je regarde qui m'a engagé. Puis Steve Yzerman m'a engagé. Bob Gainey m'a engagé, qui est mon premier job de professionnel avec le Club École du Canadien. Puis Alfredson faisait partie du panel durant l'entrevue. Puis j'avoue que ça, c'est une des plus belles choses qui a été dit. Quand j'ai fait l'entrevue, Pierre Dorion m'a dit après, il dit, quand t'es passé, Alfredson a dit, garde, on a fini nos candidats. Il dit, c'est lui le gars. Moi, je serais coaché par lui n'importe quand. Ça, pour moi, puis Steve Yzerman m'avait dit la même chose. Ça demeure pour moi personnellement dans les plus beaux compliments que moi je peux avoir comme entraîneur. C'est pour ça que c'est très particulier pour moi de voir qu'en fait, va avoir cette.
Ce soir, ce sera l'intronisation Temple de la renommée de quatre joueurs qui ont marqué l'histoire du hockey sans jamais avoir gagné la Coupe cette année. Daniel Alfredson, les frères Cédine et Roberto Luongo. Salutations à Robert Brière. Salutations à Yves Gravel qui dit « Moi, je détestais Alfredson, mais bien sûr pour les bonnes raisons. Je l'aurais pris tout de suite avec le Canadien. Il a tellement fait mal souvent aux Canadiens de Montréal. » Salutations à Didier Geoffrion, Guillaume Levasseur, Claude Marion. Alex Laramé, Christian Drolet, Luc Payant, Pascal Lapointe, Éric Beauchamp, vous allez comprendre, il y a beaucoup de monde sur nos pages On Jase. Question Guy, Pierre Laferrière. Demande à Guy Martin, s'il vous plaît, si pour le développement, le concept du jeu est plus facile à voir sur la passerelle. Merci pour cette question.
Écoute, c'est difficile à accepter d'être sur la passerelle. Une fois de temps en temps, ça te donne du recul. C'est parce que quand tu es dans le milieu, il y a beaucoup de pression, c'est très prenant, puis tu essaies de survivre beaucoup à tes journées et à tes circonstances, surtout comme un jeune. Puis à un moment donné, là, tu as juste besoin de respirer, tu as juste besoin de te sortir, soit de ton marasme ou de ton environnement, juste pour respirer puis prendre de la perspective. Fait que c'est pas nécessairement juste de voir techniquement ou tactiquement ce qui est à apprendre. C'est juste le simple fait que te retire de ton environnement, de prendre un peu de recul, puis de respirer, puis d'atténuer la pression dans laquelle tu vis. Tu sais, on a des expressions, il y en a à tonne, là, tu sais, quand t'es, je sais plus c'est quoi, là, quand t'es pris en forêt, tu vois plus les arbres, ou le contraire, là. On espère que ça ne sera pas un boucherisme, là.
Après les péronistes, un boucherisme.
Ouais, c'est ça, mais quand tu es tellement pris dans ta situation, peu importe dans quoi, pas juste au hockey, à un moment donné, là, prends un break, sors de là, puis respire un peu, puis là, tu vas voir bien plus clair. Mais c'est beaucoup plus ça. Alors, que ce soit un Mike Hoffman qui sortit des estrades, que ce soit un jeune, c'est ce que ça donne, puis on voit ce que ça a donné pour Mike Hoffman.
On en a parlé beaucoup dans la dernière année, toi puis moi, Guy, tu sais, je te disais, souviens-toi quand tu vas retourner coacher, quand le gars est pris émotionnellement dans la situation, dans le résultat, c'est difficile pour lui de se focusser sur le process, sur le processus. Puis c'est un peu ça que tu viens de dire, mais tu sais, ça s'applique également dans nos vies personnelles. Vas-y, Yann, je te laisse aller.
Ben non, t'as raison. Là. C'est ce que j'allais ajouter, que ça s'applique aussi dans la vie de tous les jours. Guy, on est rendu à la toute fin. Il y a Marc-André qui s'en vient. On va avoir les commentaires de Martin Saint-Louis également. D'abord, un gros merci, puis on va te retrouver avec grand bonheur mercredi à On Jase. On va revenir sur le match canadien de Devils.
Ben, merci beaucoup, bien. Messieurs. Merci à tout le monde. Vous avez été extraordinaires aujourd'hui, messieurs.
Ben, t'es fait, Guy, puis on salue tous les crétins en ton nom.
Salut Guy!
C'est bon, merci, bye bye.
Alors, dans les prochaines minutes, quoi?
Je pense qu'il l'a dit pendant qu'on n'était pas à TV. Donc, les gens qui sont à télé présentement se demandent pourquoi il parle de crétin?
Non, il l'a dit. Je pense qu'on était à TV. Je ne veux pas te relancer, là, mais
on me confirme à l'oreille.
C'est toi qui as raison. C'est toi qui as raison, mon chum. C'est ça. Je t'ai mêlé. Bon, ça n'aurait pas été bien grave. Là. C'était juste sympathique, c'était juste drôle la manière qu'il l'a dit. Martin, juste avant d'aller retrouver Marc-André Dumont, tu voulais revenir un peu sur la coupe de jeux vidéo. Là, on en a parlé brièvement au début de l'émission, mais là, tu as des informations à nous donner là-dessus.
Oui, des dates surtout, Yann. Bell et RDS présentent la coupe RDS de jeux vidéo qui va encore une fois se passer, que ce soit sur NHL 2023, 6 contre 6, ou à FIFA à 1 contre 1, FIFA 2023, bien sûr. Tout ça, ça va se dérouler dans nos environnements et il y aura des prix à gagner en carte cadeau pour les participants jusqu'à 3 500 $ gracieuseté de RDS et La Source. Les diffusions sur le web auront lieu le 22, 24, 25 novembre prochain pour FIFA 2023 et 13, 14, 15 décembre pour NHL 23. Je vous rappelle que NHL 23, c'est 6 contre 6. Il faut vraiment qu'il y en ait un qui savent goaler, ce que je ne pourrais pas faire visiblement dans un jeu vidéo. Les grandes finales seront diffusées simultanément sur la chaîne Twitch de Bell et la page Facebook de RDS le 26 novembre pour FIFA 2023 et le 16 décembre pour NHL 23. Donc, je vous le dis, il y a plein de prix à gagner. Vous pouvez trouver l'onglet là, du tournoi, bien sûr, sur la page de rds.ca. Là, la vérité, c'est que je peux vous dire que ça s'en vient, mais je ne sais pas si on a toutes nos équipes ou vous pouvez encore vous inscrire. Vous pouvez aller faire un tour sur la page de RDS, l'onglet pour la coupe RDS jeux vidéo.
Allez vous informer comme ça, ben vous allez avoir la bonne information. On va accueillir Marc-André Dumont. Martin Saint-Louis termine son point de presse à l'instant, donc on va vous présenter ses commentaires dans les prochaines minutes. Mais pour le moment, on va trouver l'autre coach, Marc-André Dumont, qui lui a préparé à nouveau aujourd'hui quelques séquences avec son tableau. Salut Marc-André!
Salut messieurs, comment ça va?
Ah, pleine forme.
Fantastique. Faux. La dernière fois que j'étais passé en temps avec Guy Boucher, je vous avais dit que j'avais une anecdote à raconter, mais là, il n'est plus là, fait que ça sera pour la prochaine fois.
OK, bien garde-la. Ouais, garde-la pour la prochaine fois. Honnêtement, je n'y avais pas pensé, là, j'avais complètement oublié ça. Mais garde-la pour la prochaine fois. C'est toujours bon, ça. C'est toujours winner. Je vais parler au gars qui fait les erreurs, mais on m'organise que vous soyez ensemble maintenant.
Tu m'as parlé. C'est ça que j'allais dire. On va demander au gars qui fait les horaires. Yann, tu peux-tu arranger ça?
M'en occupe.
Mais bon.
Pour que les gens le sachent, là, c'est moi qui contrôle un peu les horaires de tout le monde. Là, fait que je vais m'organiser pour que ça fonctionne. Marc, tu nous as préparé un tableau. Tu voulais revenir un peu, puis c'est complémentaire un peu avec ce que Guy jasait tantôt, sur le but de Caulfield dans le match de samedi.
Oui, absolument. Alors, j'ai préparé mon tableau. Je voulais expliquer aux gens un peu comment ça s'est développé, cette séquence-là. Alors, évidemment, en noir, c'est le Canadien. En vert, c'est l'autre équipe. Et donc, ce que je veux montrer, c'est que au moment où le défenseur ici transporte la rondelle, OK, il va faire sa sortie de zone, il va envoyer la passe à son ailier droit ici. Et c'est Caden Goulet qui va intervenir, bien positionné, puis vous voyez un peu la formation, là, ça peut ressembler à un 2-2 ou à un 1-3-1, mais sur cette passe-là, Caden Goulet va appliquer une pression juste ici, OK? Et quand il applique une pression, là, je remarque qu'il y a comme le reflet du néon du plafond du bureau où je suis en ce moment, je vais essayer
fais
de
juste contourner ça un peu. Fais juste le mettre plus droit.
Comme ça?
T'es incliné.
Ah, voilà!
Parce que là, ma bouche est bloquée, puis il ne se rend pas au micro.
On ne veut pas avoir ça, ta bouche.
C'est une gymnastique. Fait que je pense que je vais être correct comme ça. Alors, sur la passe, parfait. Il intervient. Caulfield récupère la rondelle qui est derrière. Va faire la passe à David Savard qui était en retrait ici. David Savard a maintenant la rondelle. Alors, pendant ce temps-là, Pittsburgh va se repositionner en échec avant 1-2-2. Et là, Kirby Dach, lui, ce qu'il va faire, il va faire un tracé comme ça. Il va venir se positionner dans le centre de la patinoire pour recevoir la passe de David Savard. Pendant ce temps-là, Nick Suzuki, lui, il est revenu très profondément comme bon joueur de centre pour essayer de supporter ses deux défenseurs. Et là, il va pivoter et sur la longue passe de Kirby Dach ici qui va récupérer la rondelle, Kirby va s'en venir le long de la bande. Il est mis en échec. On a vu une photo de Martin tout à l'heure sur ton cellulaire. J'ai bien aimé. Je peux faire un lien avec cette séquence-là. Et là, Nick Suzuki, qui était venu supporter les défenseurs, s'en va supporter Kirby Dach pour récupérer la rondelle derrière lui. À ce moment-là, ceux qui vont retourner voir sur Internet la séquence, il y a cinq joueurs des Penguins de Pittsburgh dans cette zone-là. Donc, les cinq sont ici, sont dans un quart de glace, si on peut appeler ça ainsi. Alors, Nick Suzuki, ce qu'il fait, c'est un jeu que j'adore, qu'on utilisait abondamment au Cap-Breton quand j'étais là, parce qu'on était dans une division où il y avait beaucoup de pression sur le porteur, puis parfois même des surnoms défensifs. Alors, Nick Suzuki va rouler la rondelle sur la bande. Fait qu'on appelle ça rim to D2. Donc, un bon rim à D2. Donc, le côté faible. Là, comme je vous dis, il y a cinq joueurs ici. Alors, Nick Suzuki va rouler la rondelle. Et là, la rondelle, bien, tu sais, est à peu près ici. Elle va se positionner à peu près ici. Alors, Caden Goulet va rentrer pour appliquer une pression. Puis, il y a une pression de l'ailier sur lui. Et Cole Caulfield va partir du bas du cercle. Alors, c'est quand même là une bonne distance. Il va aller prendre sa place à la ligne bleue. Caden Goulet aurait pu, du revers, envoyer à l'arrière, mais il va freiner, changer de côté, puis il va faire une passe directe. Et là, pendant ce temps-là, Kirby Dach s'est relevé, il a replacé son casque, puis il est allé se positionner en avant du filet ici pour faire un écran sur le gardien de but, Jarry. Et là, Caulfield lance, marque un but, révision, le but est accordé, puis suivi d'un avantage numérique du Canadien. Mais ce que je voulais montrer, c'est que ce but-là, dans le fond, c'est sur une contre-attaque à la suite d'un échec avant en zone neutre. Donc, ça serait catégorisé comme tel. Et donc, sur l'entrée de zone, aussi, on utilise une roulade à D2, donc au deuxième défenseur, au défenseur du côté faible du jeu. Donc, j'ai beaucoup aimé ce but-là pour différentes raisons et je voulais le montrer aux gens. Oui, Martin, on t'a vu avec ton téléphone.
Mais on voyait le support de Suzuki, comme tu parlais, là. Exact. Kirby Dach est quatre fers en l'air et la rondelle est sur Suzuki. Job est fait. La job est faite de Dach, la job est faite de Suzuki. Chapeau, c'est ça qu'on veut. Et non, moi aussi, j'ai aimé, mais j'ai surtout aimé ce que Kirby Dach a fait. J'en ai parlé tantôt. Là, c'est pas fait justice lui-même. Il est allé prendre sa position pour aider un coéquipier à prendre une chance sur le filet. Il a complètement enlevé les yeux du gardien de but. Bref, j'ai aimé ce jeu-là de A à Z. 3 contre 5, 3 buts des 5 sur des écrans. Ça, je ne le dirai jamais. Comme coach des gardiens de but, je vais toujours dire aux gardiens, puis le plus bel exemple que je peux vous donner, que tout le monde va se souvenir, si le gardien la voit partir, il y a de fortes chances qu'il l'arrête. Et peu importe la distance. Souvenez-vous, séries éliminatoires. Je pense que c'est Calgary Oilers. Mike Smith va en arrière du filet, arrête une rondelle, retourne dans son filet, fait un peu de nettoyage au lieu de rester concentré sur sa rondelle parce que le jeu est actif. Sortie de territoire ratée des Oilers, le défenseur prend la rondelle et tire vers Mike Smith. Mike Smith entend « Pow! » Il se lève la tête, il ne sait pas d'où ce qu'elle part. Il s'est fait déjouer, puis là, il a dit « Ah, je l'ai perdu dans... » Non, non. Tu ne l'as pas vu partir. Donc, si vous êtes capable d'enlever les yeux au gardien de but, vos chances de marquer sont multipliées. Et 3 de ces 5 buts-là, il y avait des écrans pour le Canadien.
Tout à fait. Puis c'est quelque chose qui m'a marqué là, quand j'ai revu le match, parce qu'évidemment, les gars, je n'ai pas regardé le match en direct. J'étais à RDS pour la finale du défi mondial des moins de 17 ans à l'équipe Canada Rouge. C'est ça, exactement. J'étais en studio à RDS, mais on avait un petit moniteur à droite, là, fait qu'on regardait ça, moi et Stéphane Leroux, de temps en temps, là, durant les pauses commerciales, puis on passait des commentaires sur ce qu'on voyait. Mais le premier but d'Anderson, Dadonov fait un écran. Caulfield, c'est Dach, on vient d'en parler sur le tableau. Et le quatrième but de Monahan, il va faire l'écran lui-même puis récupérer son retour de lancer. Fait que 3 buts sur 5, c'est quand même un bon chiffre. Puis ce que je veux mentionner là-dessus, messieurs, puis Martin, t'as raison, si t'enlèves les yeux au gardien, c'est très difficile pour lui de faire un arrêt. L'autre élément qui est difficile pour un gardien de but, c'est une déviation à la dernière minute. Fait que tire de la pointe, puis à peu près aux oreilles, là, dans le milieu de l'enclave, il y a un joueur qui tape sur la rondelle pour qu'elle bondisse au sol, puis qu'elle remonte en quelque part. Ça, là, c'est tellement difficile pour les gardiens de but. Le temps de réaction, il est nul. À la télé, au ralenti, ça a l'air long, là, mais tu sais, c'est des centièmes de secondes. Fait que le gardien de but, là, c'est une question de chance si la rondelle le frappe. Et donc, mais c'est un élément, là, faire un écran, là, le bon vieux screen devant le gardien de but, là, c'est pas tous les attaquants qui veulent faire ça, puis c'est pas toutes les équipes qui font ça. Et j'ai affronté des équipes dans le junior qui n'avaient pratiquement jamais d'écran devant le gardien de but, ou s'il y en avait un, c'était par hasard. Et même l'entraîneur adjoint qui était avec moi à l'époque, qui est maintenant à Sault-Sainte-Marie dans la Ligue junior de l'Ontario, Brent, il me disait souvent... Il n'était pas nécessairement en accord avec moi là-dessus, que moi, je voulais avoir un écran en avantage numérique tout le temps. Lui, il disait pas nécessairement. On avait tous les deux raisons, là, mais parce qu'il y a des circonstances. Mais il reste que le fait de voir les joueurs du Canadien faire ça samedi, c'est un engagement qui est vraiment intéressant. Et je vais vous raconter une anecdote. Une fois en avantage numérique sur la deuxième unité, j'avais de la misère à trouver un gars qui vraiment se positionnait là, puis... Je voulais que devant le filet, là, qu'il soit debout, puis le bâton dans les airs. Vraiment le bâton devant. Puis pourquoi devant? C'est que si la rondelle s'en va de ce côté-là, ben, tu peux dévier ici. Puis si elle s'en va de l'autre côté, tu peux dévier là. T'sais. Alors que si tu gardes ton bâton sur le côté, c'est un petit peu plus facile pour le défenseur de prendre possession de ton bâton. Alors,
je veux rajouter quelque chose là-dessus, Marc-André.
Pardon, vas-y.
Pour le gardien de but, quand les déviations arrivent, tu le dis, c'est comme un lancer qui vient d'arriver que tu n'as pas vu partir près de toi, fait que ton temps de réaction est minime. Fait que moi, en tant que coach des gardiens, je vais demander à mon gardien de but de s'approcher du gars qui fait le screen. Fait que comme ça, plus tu es proche du tireur, plus que la rondelle ne peut pas passer à côté de toi pour aller dans le filet, elle va te frapper. C'est comme ça qu'on anéantit ce jeu-là. En mettant ton bâton devant toi et en faisant la déviation devant toi, grosso modo, c'est comme si tu faisais la déviation quatre pieds en avant de moi, même si moi, je m'avance sur toi. Là, il faut que je change ma stratégie, il faut que je recule. Fait que ça rouvre plein de possibilités si tu fais ta déviation devant que si tu as fait sur le côté. Si tu as fait sur le côté, je vais me mettre là puis elle va te dévier sur moi. Tandis que si tu as fait devant toi, il y a un 3-4 pieds en avant de moi, ça veut dire que tu viens d'ouvrir les angles au-dessus des épaules du gardien s'il est en papillon. Vas-y, je te laisse aller.
Excellent complément. Et donc, pour terminer avec mon anecdote, j'avais demandé, j'étais un peu tanné, puis les gars le savaient parce que je mettais beaucoup d'emphase à avoir un gars comme écran, puis peut-être c'était un adversaire que ce gardien de but-là, on avait du vidéo qui prouvait qu'il y avait beaucoup de difficultés à combattre ça. T'sais, il se laissait faire, dans le fond. Là, si tu mettais un écran devant lui, il combattait pas vraiment, essayer de trouver la rondelle puis chercher autour. Donc, j'avais dit au banc durant l'arrêt de juge, bon, qui veut screener? Puis j'avais mon joueur qui était sur la première unité d'avantage numérique, Giovanni Fiore, qui a scoré 52 buts cette année-là, qui a levé la main. Il dit, je vais y aller, moi. Fait qu'il était sur le premier avantage numérique, puis il était sur le deuxième avantage numérique comme écran au filet. Et ça a été un bon... Il y avait 20 ans, ça a été un bon message pour les jeunes, bien entendu. Fait que je fais un petit lien avec ce que Guy parlait tout à l'heure, là, en termes de donner l'exemple de leadership, puis d'avoir du succès. Si tu as du succès, c'est plus facile que les jeunes se développent puis apprennent de ces situations-là, ou à tout le moins du succès de temps en temps, là, pas nécessairement un succès continuel. Fait que tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé cet aspect-là des écrans chez les Canadiens samedi.
Marc-André, je vais te laisser préparer ton tableau parce que tu as un autre sujet à nous parler, l'échec arrière et la cohésion. Mais on parlait de gardien, juste une petite nouvelle, complément d'information avant d'aller du côté de Martin Saint-Louis. Jake Allen, ce matin, on lui a officiellement confirmé qu'il recevait le trophée Jean Béliveau. D'ailleurs, il y a eu un petit point de presse avec Mme Béliveau. On voit des images. Élise Béliveau qui est allée remettre le trophée qui porte le nom de son défunt mari. Alors, Jake Allen, implication communautaire. Félicitations, c'est pleinement mérité dans son cas. Donc, ça s'est déroulé au cours des dernières minutes du côté du Complexe Bell. Avant de revenir avec Marc-André, bien, Martin Saint-Louis s'est adressé aux médias. Allons écouter ce que le coach avait de bon à jaser ce matin.
Ce serait le fun d'avoir plus de stabilité, pas juste sur la ligne à Jake, sur les autres trios aussi. Puis je pense depuis le début de l'année, mais les circonstances nous rendent les choses difficiles d'avoir de la stabilité sur ces trios-là. Mais tu sais, plus l'année à l'avance, tu as des circonstances, des blessures et tout, des fois qui donnent plus de continuité dans la cédule, côté line-up et tout. Puis je pense que quand tu as ça, c'est une opportunité d'essayer de solidifier ces affaires-là. Mais c'est rare que tu vas avoir une longue séquence, que tu vas avoir les quatre mêmes lignes, parce que la ligue est tough, puis les circonstances, ils rentrent en ligne de compte. Tu veux jouer dans la Ligue nationale pendant longtemps, c'est une attitude que tu t'amènes à chaque année. Que tu sois un gars qui essaie de rentrer dans le line-up, tu veux prouver que tu es capable d'être un régulier, que là, tu es sa quatrième ligne, tu veux prouver que tu es capable de tuer des punitions, tu veux prouver que tu es capable de peut-être devenir un joueur de troisième ligne. Tu es un joueur de premier plan, les attentes, ils vont toujours monter, ils vont toujours être là, fait que tu veux prouver que t'es pas juste un flash, là. T'es constant, puis t'es encore... T'es pas juste un joueur qui est après s'établir. Tu veux montrer que t'es un superstar dans cette ligue-là. C'est quelque chose. C'est toujours différentes choses qu'il faut que tu fasses, qu'il faut que tu prouves.
Ouais, on aurait pu résumer ça assez facilement en disant dans la vie, dans n'importe quoi, c'est quand tu penses que t'es rendu que tu commences à descendre. Fait que toujours vouloir apprendre, toujours vouloir s'améliorer, peu importe ta situation dans la vie, là, que ce soit comme étudiant ou comme joueur de hockey ou comme entraîneur. Ouais. Quand tu penses que tu es rendu le king puis tu connais tout, tu sais tout, c'est à partir de ce moment-là que la Ligue commence à te dépasser. J'aurais jasé longtemps de voiler le gardien de but. Il y a quelqu'un en plus qui nous a écrit, Stéphane Dufresne, il dit « Chez Weber, qui lance des plans à 108 000 à l'heure, ça aide aussi à être plus brave ou moins brave. » Ça aide à être plus brave parce qu'il n'est pas là. Moi, je vais rajouter des Jeff Petrie de ce monde qui tire à hauteur de la tête et qui a tout le temps dans la baie vitrée. Fait que tu sais pas, en allant devant le filet, même si tu es à côté, si tu ne vas pas l'asseoir d'en face, ça aide pas. Je veux juste rappeler que et Eric Karlsson et Brent Burns prennent 3 lancers frappés par année. 4 lancers frappés par année parce qu'on amène des rondelles au filet pour des retours. C'est comme ça que Pavelski a rempli le filet en avantage numérique avec des Brent Burns qui, mais tu sais, ils ont des lancers du poignet solides. Puis, dernière parenthèse, Marc-André, je te laisse aller après. J'étais hyper heureux. Je pense même que j'ai eu une émotion sur le but de Monahan. C'est Drouin qui a fait le jeu à la pointe. Puis les gens vont dire, ouais, mais il a juste amené la rondelle au filet. C'est ça qu'il fallait qu'il fasse. Et le jeu facile, savez-vous c'est quoi? Ça aurait été d'ouvrir les épaules puis d'envoyer à Cole Caulfield parce que tout le monde s'attendait à ce qu'elle aille à Cole Caulfield. D'ailleurs, le défenseur a quitté Monahan pour monter sur Caulfield parce qu'il était convaincu. Vous regarderez à la reprise. Là. Le défenseur, là, Drouin, n'a jamais fait la passe à Caulfield. Le défenseur a monté, je pense que c'est Peterson encore, qui a monté sur Caulfield, ce qui a libéré Monahan pour qu'il puisse prendre son retour. Je suis content pour Jonathan. Tu sais, quand il fait pas des bons jeux, on le plante.
Il n'a pas joué un mauvais match, là, Drouin, samedi.
Non, il a juste joué 10, par exemple. Il a 4 en avantage numérique, ça veut dire 6 à 5 contre 5. Mais j'étais content pour lui sur ce jeu. Vas-y, Marc-André, parle-nous de... Je pense que c'est de repli défensif, si tu nous parles.
Oui, exactement. Repli défensif. Donc, le repli défensif, c'est un élément qu'à certains moments, je suis certain que le Canadien va vouloir améliorer. C'est sûr que on a une fiche de 8-6-1, là, fait que j'essaie pas de trouver des bébites, là. Mais c'est un élément qui, quand je regardais le match hier, là, tu sais, en différé, bien entendu, tu sais, je regardais, puis là, je me disais, ouf, OK, il y a peut-être des éléments qui sont à corriger ou à travailler. Bon, heureusement, ça a pas coûté le match. C'est la séquence que je montre, de toute façon, c'est pas un but. C'est juste un échec arrière en troisième période. Ça s'est produit à 13 minutes 48. Donc, c'est un 3 contre 3 qui est devenu un 2 contre 1 ou un 3 contre 2 au filet. Il n'y a pas eu de dommages, mais c'est ce genre de situation, je crois que peut-être on peut mieux travailler. Puis, je vais avouer que j'ai porté une attention à cet élément-là parce que Guy Bouchard en a parlé la semaine passée à Ongeaz au niveau du repli défensif du travail des attaquants. Et puis, dans une saison, là, une longue saison, il y a toujours des éléments à améliorer. Il y a toujours des éléments que les entraîneurs veulent faire mieux. Puis, j'ai aucune idée si c'est ça que le groupe d'entraîneurs du Canadien veut faire. Mais c'est sûr que moi, c'est un élément qui m'a vraiment marqué. Êtes-vous toujours là, les gars?
Toujours. On te suit.
Ben oui.
Fantastique. C'est mon écran a gelé de mon bord. C'est pour ça. Fait que, alors, je veux montrer ici. Okay. Le joueur de Pittsburgh à la rondelle et il quitte. Okay? Puis à ce moment-là, c'est Edmundston qui est le défenseur juste ici. Et moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il prenne le centre de la patinoire. C'est bon?
Toujours bon.
J'aurais aimé ça qu'il prenne le centre de la patinoire. Le centre, pour moi, c'est à l'intérieur des points de mise en jeu. Parce qu'en échec arrière, en repli défensif, et là, c'est ce que moi, je pense, ça ne veut pas dire que tous les entraîneurs ou toutes les équipes pensent ça, mais je ne veux pas avoir plus qu'un joueur à l'extérieur du milieu de la glace. Sauf si on a un surnom clair. Mettons un 1 contre 2 ou un 2 contre 3. Puis là, tu veux mettre de la pression pour forcer le porteur à faire un jeu rapidement. Correct. Mais dans une situation de 2 contre 2, de 3 contre 3, ou en partance de la ligne bleue adverse. Tu sais, donne le temps à tes attaquants de revenir. Comme défenseur, tu veux prendre le temps de situer le jeu, de te poser la question, est-ce que tout le monde est là? Est-ce qu'on tend sur nombre, pas sur nombre? Alors, là, ce qui est arrivé, c'est que Jake Evans a appliqué une pression sur le porteur.
Pause,
donc, le porteur est pause. Parti.
Pause, mon Marc-André. On va dire bonjour à nos mères, venez nous rejoindre sur le web. Bye, man. Vas-y, Marc-André.
All right. Alors,
ma mère, Marc-André,
vois...
ma mère.
Ben oui. Absolument, c'est important. Vas-y. Alors, là, ce qui est arrivé, c'est que Jake Evans est parti à sa poursuite, puis Edmundston a aussi décidé de le fermer. Alors, ce qui est arrivé, c'est que le joueur a glissé la rondelle en arrière, et là, lui est allé la chercher. Puis là, en plus de ça, le défenseur côté faible du jeu, lui aussi s'est sorti, là, il était sur la ligne des points de mise en jeu. Ça veut dire que sur une attaque de Pittsburgh, les trois joueurs défensifs se sont retrouvés à l'extérieur des points de mise en jeu. Fait que pour moi, ça peut causer des soucis. Et comme de fait, évidemment, lui, il a battu tout le monde. Et là, lui avait la rondelle. Le joueur est revenu. C'était un 2 contre 1 ou un 3 contre 2 avec lui, avec Jake Evans, qui était le deuxième joueur défensif qui patinait vers son gardien de but. Donc, Il y a vraiment là, un petit souci de ce côté-là que j'ai noté. Puis il y a une autre séquence qui s'est produite aussi, que je ne vais pas dessiner au complet, simplement vous dire que devant le filet, ici, à la suite d'une entrée de zone, bien, Christian Dvorak avait son joueur devant le filet et son joueur l'a battu sur le transport autour du filet. Et là, il s'est démarqué, il a reçu la passe puis il a pris un lancer. Alors ça, c'est en troisième période aussi, 11 minutes 36 à faire en troisième période. Ça, c'est une erreur de marquage. Pour ceux qui vont s'en rappeler, il y a quelques semaines, j'en avais parlé, ça, marquage. Il y a deux règles, c'est rester du côté défensif puis avoir les épaules, une épaule sur le jeu, une épaule sur la rondelle puis une épaule sur ton joueur. Mais si tu perds de l'œil un des deux éléments, il faut que ça soit la rondelle. Il ne faut jamais que tu perdes ton joueur. Donc, tu gardes les yeux sur ton joueur, tu vas perdre momentanément la rondelle, elle va être derrière toi, mais ton joueur, si jamais la rondelle va vers lui, tu vas pouvoir intervenir. Et sur ce jeu-là, ben Christian Dvorak a gardé les yeux sur la rondelle, ce qui est une erreur là, commune dans la Ligue nationale, dans tous les niveaux. Là, c'est difficile de faire ça, réussir ça à 100%. Fait que c'est un élément peut-être à surveiller pour le Canadien, mais tu sais, somme toute, 8-6-1, qui aurait cru ça il y a un mois?
C'est ça. C'est incroyable, pareil.
On s'en série à matin?
Je pense qu'ils sont égalité pour le wild card là, avec les Panthers.
Ouais, c'est ça. C'est dimanche matin, il était en série. Mais là, la Floride les a dépassés. Hein.
Ouais, mais là, on commence pas à checker ça là, au mois de novembre. Là,
mais non, mais qui? T'aurais jamais dit ça de l'année, toi,
l'an passé? Non, je le sais. Mais tu sais, moi, de faire une prédiction, je pense. Hey, un tableau série, tabarnouche. C'est génial! Hey, mais c'est très serré, même quand tu regardes ça dans la division Atlantique, là, seulement 2 points d'écart entre les Leafs et le Canadien. Ben, tant mieux! Honnêtement, tant mieux! C'est le fun, il faut en profiter, puis tu sais, ça met de la vie dans nos discussions avec nos chums, avec notre famille, avec nos enfants. C'est le fun de voir aller le Canadien. Marc-André, il nous reste à peine quelques petites minutes, puis tu voulais revenir un peu sur quoi tu as travaillé dans les dernières semaines. Le défi mondial des M17, des moins de 17 ans, parce qu'en fait, ce sont des joueurs qu'on va retrouver au championnat mondial junior l'an prochain ou dans l'autre, pour plusieurs. Et les Américains ont été dominants. Ils ont battu le Canada rouge en finale. Ils ont écrasé. Mais en fait, ma question est la suivante. Les nations ont tous un pays, un peu comme au championnat mondial junior. Pourquoi le Canada fait 3 équipes et dilue son talent dans ce tournoi-là?
C'est une bonne question, Yannick. Puis ils ont toujours fait ça. Hockey Canada a eu, à un moment donné, 5 équipes au défi mondial des moins de 17 ans. C'était à l'époque d'équipe Québec, équipe Ontario, équipe Atlantique, équipe Ouest, équipe Pacifique. Donc, la Colombie-Britannique était avec l'Alberta, Saskatchewan, Manitoba, ouais. L'Ontario avait son équipe, toutes les provinces maritimes. Alors, c'était assez inégal parce que, bon, par exemple, dans les maritimes, là, l'équipe Atlantique, des fois, c'était pas nécessairement très fort. Je pense qu'ils ont remporté une seule médaille dans toutes ces années-là. Et là, Hockey Canada a comme modifié la formule pour aller chercher 3 équipes. Leur but, c'est qu'au lieu qu'il y ait 22 joueurs introduits au programme national, il y en a 66. Au lieu qu'il y ait 3 ou 4 entraîneurs, bien, il y en a 12 entraîneurs, si on inclut les entraîneurs de gardien de but. Donc, chaque équipe a son directeur des opérations hockey, entraîneur-chef, 2 adjoints, 1 instructeur des gardiens, 1 entraîneur pour l'aspect mental, 1 médecin d'équipe. Fait que vraiment, ils veulent introduire le plus grand nombre d'individus aux valeurs de l'équipe nationale, au programme de l'équipe nationale, porter le chandail pour que quand les gars arrivent au moins 18 pour moins de 20 ans, ils ont du millage. Puis le programme national les connaît. Comme je mentionnais durant le reportage avec Stéphane Leroux samedi soir durant le match, j'expliquais qu'à la fin de ce tournoi-là, tous les entraîneurs de chacune des équipes doivent remplir un rapport très détaillé sur chacun des 22 joueurs de son équipe. Alors, c'est vraiment là, dans le but d'introduire ça. Mais bien entendu, il y a des années que les États-Unis sont très bons, puis il y a des années qui sont un peu moins bons. Cette année, visiblement, sont très bons. Alors, leur programme national va peut-être avoir plusieurs choix de première ronde en 2024 et 2025, tout comme les 3 équipes du Canada. Mais dans le fond, là, c'est qu'on aurait pu garder le tiers de l'équipe des Rouges, le tiers de l'équipe des Blancs, le tiers de l'équipe des Noirs, puis faire une équipe. Et probablement que ça aurait été beaucoup plus serré. L'autre élément aussi, c'est qu'aux États-Unis, ces 22 joueurs-là de 16 ans, ils joueraient où s'ils ne jouaient pas dans cette équipe-là? Bien, il y en a qui joueraient dans USHL, où est-ce que les programmes sont inégaux. Il y en a qui joueraient high school. Il y en a qui joueraient prep school. Alors, je comprends le programme américain de dire, sais-tu quoi, là, c'est assez inégal, là, le développement du hockey partout aux États-Unis. Il y a des bons programmes, là, bien entendu. On est peut-être mieux des regrouper puis des garder ensemble toute l'année ensemble. Puis là, il y avait une vingtaine de matchs, eux autres, de jouer déjà. Comparativement aux joueurs du Canada qui jouent la plupart dans la Ligue canadienne, quelques-uns jouent dans des programmes midget. Et donc, dans les 60 équipes de la Ligue canadienne, on a beaucoup plus de chances d'avoir des bons programmes de développement puis d'avoir des joueurs prêts quand ils se présentent à l'équipe nationale.
Bien répondu. Tu m'as éclairé un peu.
Absolument. Puis, tu sais, c'est-tu quoi? Ça permet à plus de joueurs. Puis moi, je suis contre castrer des gars aussi jeunes. Il y en a là, qui participent même pas à ces tournois-là puis qui vont avoir des carrières dans la Ligue nationale. Puis, il y en a qui participent au tournoi puis... Pas de carrière dans la Ligue nationale de hockey. Fait que je suis bien d'accord avec ça. Marc-André, écoute, tu as été à la hauteur de ta designer, c'est-à-dire hors pair.
Good job,
merci,
coach.
Merci, Martin. On part bien la semaine.
Yes, sir,
un bon début de semaine.
Ouais.
Bonne émission. Absolument. Merci, les gars.
Puis les gens aiment ça, ton tableau. Lâche pas. Puis Valérie, la réalisatrice, elle est fascinée comment tu manipules le deux crayons. Fait que tu vois, il y en a pour tous les goûts.
Bonne semaine,
mon chum. On se parle bientôt.
Bonne semaine, les gars. À bientôt.
Attention à toi, mon chum. Bye.
Allons-y, Martin, maintenant avec les trois étoiles du jour.
OK, oui, les trois étoiles. La troisième étoile, The Third Star, sur YouTube, Martin Bellefleur.
La deuxième étoile, The Second Star, du Facebook RDS, Stéphane Dufresne.
Et la première étoile, The First Star, du RDS.ca. Pierre Laferrière! Laferrière!
Alors, un gros merci à Guy Boucher et Marc-André Dumont. Merci également à Anouk Grignon-Langlais, toute l'équipe dans la salle des nouvelles, l'équipe de Sport 30 pour le support, les clips et tout ça, très apprécié. Valérie Gautran en réalisation, mise en onde, Mathieu Bédard aux médias sociaux, toute l'équipe de production en régie à RDS. Et surtout, à vous, les jaseux, que ce soit sur RDS.ca, Facebook RDS, YouTube RDS, ou via la télé sur RDS, c'est très, très apprécié. On vous lit, on vous suit, et merci d'être fidèle au rendez-vous. Demain, Marc Denis, Benoît Brunet en marge de l'affrontement Canadiens Devils.
Bien, j'ai hâte. Les Devils, qui est une équipe qui patine en temps, on va avoir du fun, on va mettre la table demain, on va voir qui va sortir de la formation. Est-ce que c'est un Drouin ou un Armia blessé qui va laisser sa place à Slafkovský? Dossier à suivre dès demain. Merci à vous tous d'avoir été là. Salutations à vos mères, câlins à vos enfants.